Oui, super. Alors, donc, l'étude est en trois parties. Là, et donc, ce sont les trois façons dont la Bible parle. Les trois façons dont la Bible parle de notre sanctification. D'accord? Donc, c'est par rapport à ce qu'on a vu ce matin, le fait que Dieu est saint, on est clairement en aval. On parle des conséquences du fait que Dieu est saint. D'accord? C'est capital de le souligner parce que ça, j'allais dire, c'est pas du tout la même pression sur moi en tant que chrétien, si ma sanctification est une chose première, que si c'est une chose seconde. Or, c'est une chose seconde. La chose première, c'est que Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, je suis sanctifié. Et donc, les trois parties seront, on peut même dire, on pourrait quasiment dire les trois sanctifications, avec un S à la fin, dont le Nouveau Testament parle. Alors, la première, après on les reprend une par une, hein, d'accord. Mais la première, c'est Dieu nous a déjà sanctifiés par le sang de son Fils, par le sang du Saint. La deuxième, c'est Dieu est en train de nous sanctifier et continue à nous sanctifier par la vérité. Et Jésus a prié qu'il fasse ça. Et la troisième, c'est nous nous sanctifions nous-mêmes par tout ce que Dieu donne, hein, son esprit, sa parole, etc. Donc, sur les trois, oui, clairement, le Nouveau Testament parle de trois sanctifications. Les deux premières sont opérées par Dieu. La première est déjà opérée. La deuxième, elle est opérée tout au long de la vie chrétienne. Et la troisième, c'est le chrétien lui-même qui l'opère. OK? Donc, la première, on va rappeler le verset que Pierre a lu ce matin. À celui qui nous aime et qui nous a déliés de, littéralement c'est ça, hein, déliés de nos péchés par son sang. Ça, c'est ce que Dieu a. Donc, évidemment, ça concerne les gens qui sont devenus disciples de Jésus, qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau. Il nous a déliés de nos péchés par son sang. Ça, c'est la première sanctification. Alors, Hébreux, donc ça c'est Apocalypse 1, verset 5. Maintenant, lisons Hébreux 13, verset 2. Non, il y a une erreur. Ce n'est pas 2, c'est 12 alors. Oui, 12. Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi aussi, donc bon, c'est pourquoi se réfère à. Bon, on ne va pas compliquer, on commence à. Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors de la ville. Voilà un des textes, puis après il y en a un autre qui est encore plus direct et plus clair, mais où il est dit que le sang de Jésus à sanctifier le peuple. Mais on vient de le lire. Jésus, virgule, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, la chose à relever ici, c'est que c'est une chose qui est déjà faite. Alors, le reste de la Bible montre que ça agit sur ceux qui croient. Mais voilà un endroit où le Nouveau Testament parle d'une sanctification des personnes par le sang versée par Jésus. Et maintenant, plus facile, Hébreux 10, 10. Ça, c'est pas difficile. Hébreux 10, 10. Les versets précédents disent que Jésus est venu par la volonté de Dieu, qu'il est venu accomplir la volonté de Dieu. Et voilà ce que dit le verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, donc du corps crucifié, hein, une fois pour toutes. Donc, non, l'offrande de son corps a été faite une fois pour toutes, mais du coup, ça s'applique au résultat de l'offrande, si l'offrande te sanctifie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle offrande. Donc, ça, c'est s'il y a besoin et si ça peut vous aider, apprenez-le par cœur celui-là, Hébreux 10, 10. Retenez le numéro de téléphone, mais surtout le contenu. C'est en vertu de cette volonté, donc de la volonté divine, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors, il faut s'arrêter un peu sur. La volonté du Saint Dieu, c'est que Jésus c'était d'envoyer son Fils, et que son Fils soit l'expiation pour les péchés de ceux que Dieu voulait racheter. Et la volonté, donc, en d'autres termes, la volonté de Dieu était que des hommes soient sanctifiés par le sang de son Fils. Voilà. Donc quand on dit ce matin, j'ai dit c'est le Saint qui sanctifie. Mais là on est au cœur même de cette réalité. C'est le Saint qui sanctifie, c'est le Dieu Saint qui sanctifie par le sang du Fils Saint. Parce que Jésus est appelé le Saint dans le Nouveau Testament. C'est ce que l'ange dit à Marie, le Saint qui naîtra. Dans Luc 1, en français, vous avez entre parenthèses « enfant », le saint enfant qui naîtra. Bon, mais en fait, c'est juste écrit « le saint qui naîtra ». Et puis, Pierre dit, par exemple, acte 3, verset 14, « vous avez livré le saint et le juste ». Donc, il est le saint, et à beaucoup d'autres endroits. Hein. « Tu es le saint de Dieu », dit Pierre, je l'ai lu ce matin. Juste après avoir dit, tu as les paroles de la vie éternelle, hein, dans Jean 6, il dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, la volonté du Saint Dieu était que le sang du Saint, son Fils, nous sanctifie. Et ce n'est pas, écrit comme une volonté ici qu'on doit faire arriver. Ce n'est pas une volonté qu'on doit nous mettre en œuvre. C'est quelque chose qui est déjà fait. Nous sommes sanctifiés par la mort de Jésus sur la croix, une fois pour toutes. Voilà. Alors, quel dommage si toute ma réflexion sur la sanctification du croyant commence à la troisième partie qu'on verra en dernier, c'est-à-dire que je me sanctifie. Ce que la Bible dit aussi, hein. Attention, on ne l'enlève pas. Mais ça vient en troisième. En premier, il y a une sanctification que Dieu a déjà opérée. Et donc, c'est pour ça que, comme j'ai dit ce matin, ceux qui ont cru en Jésus sont appelés saints. Alors, par exemple, à Corinthe. Paul écrit à Corinthe, les saints qui sont à Corinthe. Mais quand tu vois le contenu de ce qu'il est obligé de leur dire quelquefois comme coup de martinet, et bien voilà, donc ce sont des saints, ils sont sanctifiés et ils pêchent. Donc en tout premier, le fait que je sois tenté et que je pêche, j'ai pas le droit d'en déduire que je suis pas sanctifié. ça semble très humble. Ça semble très humble. Et je l'ai fait, hein, je l'ai fait plusieurs années après ma conversion. Moi, je croyais que quand je péchais, j'étais déconverti. Mais vraiment, hein, j'étais malade. Et je veux dire, j'en étais mal. Et non, Dieu dit que la croix de Jésus, que le sang de Jésus m'a sanctifié, nous a sanctifié, tous ceux qui ont cru, et donc moi inclus. Et moi, je n'ai pas le droit, parce que j'ai été tenté et que je suis tombé, de dire je ne suis pas sanctifié. Je serai sanctifié si j'arrive à me débarrasser de tel péché. Mais premièrement, non, la réponse est non. En troisième, la réponse sera oui, c'est-à-dire j'aurai aussi joué ma part de me débarrasser. D'accord ? Donc à la fin, on parlera pas mal de débarrasser, de rejeter, de s'abstenir, de vraiment, hein, il y a des termes très forts dans la Bible, hein, rejeter, jeter dehors. Donc on parlera vraiment du rôle du chrétien de lutte contre le péché et de s'abstenir de certaines choses, mais ce n'est pas la fondation de la vie chrétienne. D'accord ? C'est un des murs, c'est un des résultats. Voilà. Donc, quand mon oreille entend sanctifier, eh bien, la première compréhension, c'est oui, par ton sang, Seigneur Jésus. Voilà. Et même à genoux, même en pleurant parce que j'ai honte de tel péché et que je me repens, eh bien, c'est quelqu'un de sanctifié qui se repent, quelqu'un... Vous voyez ? Voilà. Oui, aussi. Ça, c'est inclus. Oui, oui, c'est-à-dire on est sacrificateur pour Dieu, c'est-à-dire prêtre qui est appelé à dire sa louange, à dire aussi sa vérité et à le refléter du moment qu'on a cru. Très imparfait. Alors ça, on le voit, il y a un domaine où c'est flagrant, c'est au niveau du témoignage auprès des non-chrétiens. Il y a des nouveaux convertis qui ont quasi presque rien compris de l'évangile. Et hop, ils parlent à un autre, et l'autre, il vient, il se convertit, et ils sont hyper efficaces. Et on dit, Dieu atteste leurs paroles. Et on pourrait dire, mais il en manque encore, il en manque. Eh bien, ils sont vraiment sanctifiés. Dieu les a pris en main. Et donc, je sais plus, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure. Oui, c'est mon homonyme et frère. Jean, il m'a dit, donc en fait, quand on reçoit Jésus dans son cœur, c'est là qu'on est pris en main par Dieu. Il dit oui. Parce que s'il n'avait pas approché sa main, mais je ne me convertis jamais. Hein. Mais c'est vrai. Alors chez les uns, c'est d'un coup. Et chez d'autres, c'est très progressif. Il y a des conversions où les gens ne savent même pas dire l'année. Mais ce n'est pas un souci du tout. Mais la main de Dieu est venue. Et sa parole, etc. Donc, oui, je suis sanctifié par le sang de Jésus. J'ai été pris en main par Dieu. Il m'a amené par son esprit à prendre au sérieux Jésus, à croire à son sacrifice, à venir, à ouvrir mon cœur, à me convertir, à me tourner vers lui. Et avec tout ça, il m'a fait naître de nouveau. Il m'a pris en main. Et donc, vous savez, hein, j'aime beaucoup... Alors ceux qui m'ont connu jeune, il n'y en a pas beaucoup là. Il y a Joël, Anne-Laure, Bernard. Ah oui, Martine, oh pardon. T'sais, j'ai oublié de dire ce que tu... non, mais à un moment donné, on y a... qu'est-ce qu'il disait ? Ceux qui m'ont connu jeune. Oui, mais ceux qui m'ont connu jeune... Non. Ah oui, ils savent que c'était un des versets qui pour moi résumait le fait d'être devenu chrétien. C'est quand Paul dit, quand il écrit aux Philippiens, au chapitre 3, il dit « Je ne regarde plus derrière ça, je cours afin de saisir, pour tâcher de saisir Christ. » Et tout ça pourquoi ? Vu que moi, j'ai été saisi par lui. Voilà. C'est ce qui explique le fait que je suis chrétien. Et donc, voilà, Martine m'a demandé de faire une petite précision, je vais la faire, bien qu'elle me semble allant de soi après le message, mais s'il m'a pris en main, je suis saint. Tout ce que Dieu prend en main, il le sanctifie. Et Et c'est l'idée centrale de la sanctification pour les humains, c'est avoir été pris en main par Dieu, plus centrale que l'idée de mise à part. Donc, Martin Médé me précise-le, mise à part n'est pas faux. Attention, hein. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas l'idée centrale. Voilà. Donc, c'est juste, parce qu'il nous met à part d'un certain nombre de choses. Mais si ça, imaginons simplement qu'il étend son bras ou il envoie un ange pour me mettre à part de telle souillure, telle incrédulité, telle misère. C'est, déjà, on n'irait pas se plaindre, hein? On est reconnaissant. Mais c'est quand même autre chose s'il me prend en main. Et quand Jésus dit « Nul ne les ravit de la main de mon Père », voyez ? Jean 10. Voilà, donc c'est, retenons ça. Pour nous, pour la sainteté de Dieu, il n'y a pas de définition possible, incomparable, pure, on n'a pas tout dit. Hein. Mais pour la nôtre, l'idée centrale, et qui récapitule les autres, qui récapitule consacré, appartenir, mis à part, tout ça, c'est pris en main. Pardon ? Tous les matins. Amen, ouais. Ouais. Évidemment que ça inclut mise à part. Ça inclut, je lui appartiens, mais évidemment, s'il m'a pris en main, il dit, oulala, il est à moi ce petit. Ça y est, maintenant, toi, tu es à moi, toi. Il dit, hein, ils seront, c'est une des belles promesses, ils seront à moi, dit l'Éternel. Voilà, d'accord ? Et c'est énorme, et on peut avoir une reconnaissance incroyable que la première sanctification, ce soit ça, et que c'est lui qui l'a opéré. C'est capital. Mais sinon, vous savez ce que Jésus dit, hein, dans Jean 8, deux fois, il dit au verset 21, trois fois il dit, 21 et deux fois dans le verset 24, trois fois il répète, vous mourrez dans vos péchés. C'est ce que Jésus dit à l'être humain qui le rejette. Il dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, implicitement tout ce que Dieu dit, vous mourrez dans vos péchés. Donc on peut être reconnaissant, dire, mais il m'a sanctifié par son sang et je ne mourrai pas, il m'a délié de mes péchés et je ne mourrai pas dans mes péchés, je ne serai pas dans la perdition, dans les temps de feu et de soufre, même si je pêche encore. Donc ça on connaît, hein, c'est l'apôtre Jean qui dit, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Toutefois, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et deux versets plus haut, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, c'est-à-dire il ne lâche pas, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner. En quoi c'est juste qu'il nous pardonne ? Oui ? Sa nature, mais aussi, il est juste envers la croix de son Fils en nous pardonnant. Et il est fidèle, ça veut dire il continuera, il ne s'arrêtera pas, il ne se lassera pas de pardonner. Mais il est juste, c'est-à-dire son Fils, le sang de son Fils nous a sanctifiés, et Dieu est juste, il ne va pas faire le contraire de ce qu'il a fait faire à son Fils. Voilà. Oui, sinon la mort de Jésus serait vaine. Voilà. C'est très beau, hein, fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, quand on se repent et qu'on croit au pardon, ce n'est pas parce qu'on c'est pas un droit. C'est pas que Dieu me doit, il me le doit. De toute façon, j'ai dit pardon, donc il me le doit de me pardonner. Non, il ne me doit rien du tout. Même quand je suis chrétien, il ne me doit rien. Mais il est fidèle et il est juste. Il est juste entre lui et son Fils, il est juste qu'il nous pardonne. C'est eux qui ont dit que c'est juste. Vous comprenez ? Nous, on ne réclame pas, en fait. Enfin, on réclame. On ne revendique pas, voilà. Oui. Oui. Les gros aussi. Ouais. S'il faut préciser, après, parce qu'à la fin de cette première partie, on va avoir des questions sur cette partie. Et ben d'ailleurs, on s'approche de la fin. Voilà. Ben on y est, je pense. On y est, voilà, ça, je pense que c'est bien pour la première partie. C'est dans un sens la plus évidente, et dans un autre, c'est d'abord la plus importante. Donc, la première chose que le Dieu saint fait, c'est de sanctifier ceux qui viennent vers son Fils. Et il le fait par le sang de son Fils. Alors voilà, question sur cette partie, ou remarque, ou objection. Alors elles seront enregistrées, semble-t-il.
Levez la main, comme ça j'amène.
Dit comme ça, moi, ça met vraiment en lumière le fait que Abraham et Sarah, par exemple, sont sanctifiés malgré leur vie, malgré leur parcours. C'est vrai que ça n'avait jamais été aussi net comme ça, bien avant Jésus.
Oui, oui. Parce que Dieu les a pris en main. Parce que Dieu les a pris en main. À dire quand même que d'après l'ensemble de l'Écriture, ils sont aussi sanctifiés par le sang de Jésus, qui a une vertu supratemporelle, suprachronologique. On dirait bêtement rétroactive. C'est-à-dire qu'en vérité, tous ceux qui rentreront dans la cité céleste, c'est par le sang du Christ. Que ce soit Abel ou le tout dernier, c'est... Voilà. Oui.
Moi, ça, ce que tu dis là, ça me fait un petit peu... Le même effet que quand on a découvert le salut, quand on disait avant, quand on était religieux, ou disons pour quelqu'un de religieux qui essaie d'atteindre Dieu et qui fait des bonnes œuvres pour atteindre Dieu, à partir du salut, c'est parce qu'il a été sauvé qu'il fait des bonnes choses, oui. C'est pas pour. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose avec la sanctification ? C'est-à-dire que c'est parce que Dieu nous a sanctifiés qu'on peut s'appuyer là-dessus, ça donne une certaine assurance quand même. Pour évidemment modifier notre conduite, ça sera après, mais c'est appuyer sur cette certitude qu'on bouge et que c'est possible aussi. Parce que pour le salut, ce n'était pas possible d'essayer de plaire à Dieu par nous-mêmes. Ouais. Et donc, c'est parce que Jésus nous sauve que là, on peut commencer à plaire à Dieu. Et là, ce serait pareil.
Seulement on peut faire le parallèle ou la symétrique, mais c'est plus radical, le plus simple dans la Bible, c'est que le salut est une sanctification. Donc Paul dit aux Corinthiens, parce qu'il y a pas, là j'ai donné deux versets dans Hébreux, mais vous avez dans 1 Corinthiens 6, où il fait une petite liste de péchés, des gros trucs. Et il dit, c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été lavés, mais vous avez été purifiés, etc. Donc 1 Corinthiens 6, si vous voulez, je peux même préciser. Donc le salut est une sanctification, mais forcément, le Dieu Saint, il te saisit. Ben, si le Saint te saisit, ça te sanctifie. Alors, mais c'est pareil, parce que le salut, il est déjà accompli une fois pour toutes, il est en train de se faire, et il saura quand Jésus reviendra, mais nous on y travaille aussi. On travaille à notre propre salut, par exemple en soumettant nos pensées à la vérité de Dieu, etc. Donc, et donc la sanctification, en fait c'est un mot équivalent pour salut. Pour sauver par le Saint et pour le Saint. Oui.
Quand une personne se laisse convertir, se laisse toucher par Dieu, qu'est-ce que c'est une question un peu technique, ça peut-être, mais qu'est-ce que c'est qui est sanctifié en elle, son esprit ou son âme?
Ou son corps. Alors, la Bible parle des trois au sujet de la sanctification. Elle précise esprit, âme et corps. Quand j'étais plus jeune et donc je savais plus de choses, ben c'est ça la faiblesse de la jeunesse, c'est de savoir beaucoup de choses. Et après quand tu vieillis, tu découvres que finalement tu ne savais pas tant que ça. Pardon ? Ah bon, ben voilà, je fais de l'humour. Mais c'est vrai quand même. Plus jeune, j'aurais répondu, c'est l'esprit. Et l'âme, ça continue, c'est maintenant. Elle est sanctifiée par la vérité, en partie par nos choix. Aujourd'hui, je serais un peu moins radical. Je dirais quand même, c'est l'esprit, ça c'est incontestable, l'esprit, parce qu'il renaît l'esprit, là. Si vous voulez, il est un peu morné avant. Parce que l'esprit chez l'homme, donc c'est pas la pensée, hein. Dans la Bible, l'esprit, ce n'est pas la pensée, ce n'est pas l'intellect. L'esprit, c'est le récepteur de Dieu. On a été créé esprit pour pouvoir être en relation avec Dieu qui est esprit. Et c'est pour ça que quand ma relation avec Dieu est seulement par l'âme, dans laquelle est l'intelligence, la pensée, et y a, ça patine. Donc, quand on est né, quand Dieu nous fait naître de nouveau, l'esprit renaît saint, il est sanctifié, mais l'âme aussi quand même. Et la preuve, c'est qu'on commence à l'aimer de tout notre cœur, et même qu'on aime tous les voisins. Alors qu'avant, ils étaient tous des cochons. Enfin, vous comprenez ? Non, pardon, je ne m'exprime pas bien, j'aurais mieux fait de dire, de donner un... Non, mais de donner mon témoignage. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, ça m'a pris des mois pour croire, et donc pour finalement me convertir. Et j'ai été sûr que j'étais converti quand j'ai vu que j'aimais tout le monde. Parce que, donc j'avais 17 ans, hein, j'étais ado, mais quand même, précédemment, je n'aimais à peu près personne. Et d'un coup, je me mets à aimer tout le monde. Je me dis, oh Seigneur, je crois quand même que là, il est possible que je sois devenu chrétien. Voilà. Donc, oui, l'âme aussi. Mais ce n'est pas fini, l'âme. C'est ça. Ce n'est pas fini. Elle est, il l'a pris en main. Donc, elle est, tu vois. Ouais. Ah oui, oui, micro.
Entre l'âme et l'esprit, la comparaison,
voilà, qu'on peut faire, donc que Dieu... corps, âme, esprit. Bon, le corps, c'est pas très très dur à avoir une idée de ce que c'est. L'âme, il semblerait dans la Bible que c'est tout, c'est moi, c'est ma personnalité, mon tempérament, pas mon caractère au sens que je suis susceptible ou que je suis solitaire, mais mon tempérament. Plutôt tranquille, plutôt créatif, plutôt innovateur, plutôt mobile, plutôt... Enfin, vous voyez, il y a un tempérament en soi, c'est ni bien ni mal. Oui, l'individu, donc mon âme, c'est ce que... Ou si vous voulez, c'est l'âme, c'est l'empreinte digitale interne. Il n'y a que moi. Même si j'ai un sosie physique, mon âme, c'est mon... Moi, c'est moi, lui, c'est lui. Donc, et ça inclut évidemment l'intelligence, les pensées, la réflexion, tout ça, c'est dans l'âme, c'est moi. C'est moi qui réfléchis, c'est moi qui... Voilà. Bon, tout l'émotion, voilà. Pas émotion seulement au sens des vibrations, quand j'écoute Beethoven, tout ça, mais voilà, toute la sensibilité, tout, voilà. Ce qui fait que, ben, voilà, moi, Beethoven, ça me touche et toi, ça te laisse froid. Voilà, bon, voilà. Donc, tout ça, et, oui, la volonté. Décision, volonté, tout ça, la volonté. Voilà, déjà il y a très longtemps, certains avaient résumé intelligence, volonté, sentiment. Mais il est bon de dire quand même que c'est toute la personnalité, toute ma sensibilité. Ce qui fait que c'est moi. Voilà, ça c'est l'âme. Et c'est pour ça qu'il dit de toute ton âme, et qu'il vient racheter nos âmes. Voilà. Et puis l'esprit, alors c'est très, très, c'est difficile. En vérité, donc c'est Hébreux 4, 12 qui... Oui, oui. Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est vivante. Donc ça, je crois que je l'ai rappelé ce matin. Ou ailleurs, je ne sais plus. Et qu'elle est pénétrante. Elle est acérée, elle est aiguisée. Et elle pénètre jusque là où on pourrait diviser âme et esprit. Et en vérité, il n'y a que la parole de Dieu qui fait apparaître que l'esprit, c'est autre chose que l'âme. Or, la parole de Dieu, ben, la preuve, la culture humaine sur la planète a ramené l'esprit à avoir de l'esprit, la façon de parler, de réfléchir, d'écrire, voilà, on l'a ramené en fait à une partie de l'âme. Et donc, c'est pas si sûr que ça.
Non, je
ne
sais pas.
Oui. Ouais. Finalement, c'est peut-être sûr.
Et le corps dans tout ça?
Alors, on finit, si tu veux. On finit avec le premier patient et on passe au corps. Oui, probablement que l'esprit, c'est... Donc, il est, moi, je ne connais pas de définition satisfaisante. Le fait que seule la parole de Dieu divise vraiment entre âme et esprit, quelque part me fait penser que j'en aurai jamais de définition satisfaisante de l'esprit. Mais c'est clair que Dieu nous a fait esprit, Hein, c'est Dieu qui a créé l'esprit dans l'homme. Donc je suis un esprit, âme et corps. Le fait que je suis un esprit, le but c'est que je puisse être en relation avec Dieu qui est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Voilà. Donc c'est vrai que ça serait agréable de penser que c'est que par rapport à Dieu que notre esprit peut fonctionner, vivre. On peut aussi penser que c'est par rapport aux souillures, au culte, etc. Ce qui est c'est très difficile de trancher parce que dans un sens, avant la nouvelle naissance, vous étiez mort dans vos fautes et vos péchés. Donc, et l'âme n'était pas morte hein, du tout. Le corps, non. L'âme, non plus. Il y avait de la volonté, il y avait de l'intelligence, il y avait de la sensibilité. Et donc, probablement, c'est spirituellement mort. Donc, le récepteur de Dieu, il est mort-né ou atrophié. Je ne peux pas être trop affirmatif. Voilà. Et du coup, alors effectivement, tout à l'heure, on lira un verset sur les souillures de l'esprit chez des chrétiens. Donc, on va... Oui. J'oublie pas le corps.
Tu pourrais dire qu'il n'y a que la parole de Dieu qui arrive à diviser l'âme et l'esprit.
Ouais. Absolument. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de partir en guerre si je me trouve trop psychique, en l'occurrence trop charnel, parce que la chair, c'est beaucoup de l'âme un peu, et en partie du corps. La chair au sens de tendance au mal, hein. C'est beaucoup dans l'âme et c'est dans le corps. Si je me trouve trop charnel, trop psychique, trop guidé par l'humain, eh bien, il ne faut pas que je déclare une guerre contre moi-même, mais il faut que je m'abreuve de la parole de Dieu et elle va trancher les choses. Alors, le corps. Donc, nous avons en général une tête à peu près au milieu des épaules, dans la partie supérieure du corps. Quelquefois, suite à quelques événements malheureux, elle est placée ailleurs. Mais, pardon, tu voulais... Où est le micro ?
Oui, cette réduction à âme-esprit me dérangeait beaucoup parce que moi, quand je sens la parole de Dieu ou quand je sens le dialogue avec Dieu ou quand mon âme me parle, ça me parle à travers des émotions, à travers ce qu'exprime le corps. Et je me rappelle au séminaire de Paolo et Paola Bigoni, il disait qu'en fait, au moment de notre conversion, nous sommes complètement renouvelés, y compris le corps est renouvelé. Nous ne sommes plus strictement le vieil homme. Donc en fait aussi le fait que nos anciens travers ne sont pas forcément si actifs que ça, ils sont morts aussi. Après, à nous de voir ce qu'on en fait. Donc c'est vrai que cette description, pour moi, évince classiquement le corps comme on le fait en Occident depuis des millénaires. Mais quelle est la place du corps ?
Alors, il me semble que les différentes remarques et questions au sujet de l'âme et de l'esprit n'impliquaient pas qu'il n'y a pas le corps. C'est-à-dire n'impliquait pas que la sanctification, c'est que l'âme et l'esprit. Voilà. Mais la question, c'était au moment de la conversion, est-ce que c'est l'âme ou est-ce que... Enfin, la première question, est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est l'esprit, voilà. Donc, évidemment, et donc on va y arriver surtout dans la troisième partie, mais même la seconde, évidemment que si Dieu nous prend en main, il nous prend en main entier, et donc il sanctifie nos corps. Après, une affirmation peut être vraie jusque-là, et si je la pousse davantage, ça y est, elle ne l'est plus. Donc, que quand je me convertis, Dieu prend en main mon corps, oui, il y a des choses qui changent tout de suite. Alors, je ne parle pas de la longueur de mon nez qui change. Voilà. Et d'autres qui ne changent pas, c'est-à-dire je peux rester très faible, ou je suis malade, quand je me convertis, je peux rester malade. Voilà, vous comprenez. Hein? Donc il y a des choses dans le corps qui ne changent pas, mais dans l'âme aussi, il y a des choses qui mettent tellement longtemps à changer. Donc, mais globalement, oui, il prend tout en main, oui, oui, oui. Ah oui, absolument. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il ne s'agit pas de le, comme si le corps était tout le temps assimilé qu'au péché, que à, ben, parce que sinon c'est du manichéisme, c'est-à-dire une hérésie ancienne où Dieu aurait créé ce qui n'est pas matériel et des dieux mauvais auraient créé le matériel. D'où la haine du corps, qui n'est pas chrétienne du tout en fait. Donc on est tout à fait d'accord. Hein? Enfin, que je sois d'accord, ça n'a pas une grande vertu. Mais tel que je connais l'écriture, c'est juste. Voilà.
Oui, oui. Oui, on a parlé de l'âme du corps, mais on ne peut pas imaginer une nouvelle naissance sans... Enfin, je n'arriverai pas à m'expliquer. On ne peut pas imaginer une nouvelle naissance que de l'âme. Automatiquement, il y a toujours l'esprit. Enfin,
ah, mais il y a pas... d'abord l'esprit.
Lui, il y est toujours.
Mais oui, ça oui, peut oui pas absolument. Être oui, c'est
pas,
d'abord.
On peut oui, pas parce... se convertir.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Alors, comment dire, les trois composantes, si vous voulez, les trois composantes d'une même personne humaine, parce que je ne suis pas trois, hein, je veux dire, c'est un peu stupide de dire qu'on est une trinité. C'est même très stupide. D'abord parce qu'on n'est pas Dieu, mais surtout parce que dans le mystère de la Trinité, il y a trois personnes en une. Nous, on n'est pas trois personnes. On n'est pas trois personnes. On est une personne qui est à la fois corps, esprit, âme, corps. D'accord ? Donc, il y a des parallèles comme ça, trois, trois, qui sont des raccourcis et qui égarent. Oui, 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 oui. La réponse tiendra lieu de rappel de la question. Je suis un corps, je suis une âme, je suis un esprit. Vous comprenez? Je suis pas quelqu'un, je suis pas un quatrième qui a un corps, une âme, un esprit et qui se débrouille. Et toi, tu te tais, toi, tu montes sur le trône, toi, tiens, on t'a pas beaucoup entendu. Vous voyez, c'est pas ça. Voilà. Simplement, je suis une personne qui est où se trouve un briquet. Voilà. Je suis l'esprit d'une âme qui habite un corps. Une fois que je suis né de nouveau, on pourrait dire comme ça. Je suis l'esprit d'une âme qui habite un corps. Et ce n'est pas par hasard que dans la nouvelle création, il nous est promis un corps glorieux. Donc, c'est, vous comprenez, ce n'est pas les deux tiers du chrétien qui vont être au paradis. Âme et esprit et âme. Tu as esprit, c'est normal, il est sauvé. Âme, pour qu'il puisse profiter des choses quand même. S'il n'y en a pas, ben comment il goûte? Et puis, pas de corps, vous voyez, ils flottent tous, là, comme ça. Vous voyez, voilà. Voilà, Dieu, Jésus, il ne va pas enlever avec lui les deux tiers de l'enfant de Dieu. Il prend tout. Alors, le corps, alors tel que non, ce corps-ci ne verra jamais... Non, non, mon corps tel quel, là, mes super bras musclés, là, ils ne verront pas la cité céleste. Mais par contre, il dit, en un instant, en un clin d'œil, il nous prend et il nous donne un corps nouveau. Philippiens 2 ou 3, c'est tellement beau ça. Et des corps à sa ressemblance. Des corps glorieux. Alors, si tu veux, je ne sais pas, mais c'est... Mais ça, en fait, ça restera. Il y aura l'esprit de l'âme de quelqu'un, l'esprit d'une âme dans un corps glorifié. C'est rigolo, hein? Oui. Ah oui, ça c'est... Oui, 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 on se fond pas, hein? On se fond pas dans... Non, non, on sait qui... Comment? Alors nous, on n'aura même pas à la reconnaître, parce qu'on reconnaîtra l'autre. Bien sûr, mais là, c'est pour ça qu'il y a des noms, hein? Il dit, ben, c'était Moïse qui est venu sur la montagne. C'était lui. C'est pas... Hein?
Voilà. On peut peut-être avancer, Jean,
oui,
si tu...
faire la deuxième partie de l'étude.
Tu répondras après à une question. Quel âge on aura dans ce nouveau corps? Mais tu la gardes pour la fin.
C'est t'ai vite répondu, aucune idée. Il y aura probablement plus d'âge. Je sais pas. Deuxièmement, cette deuxième partie, je vais l'introduire avec une remarque. Il pourrait être logique de dire, bon, en fait, il y a deux sanctifications. Une que Dieu opère par le sang de son Fils, et puis une que moi, à laquelle je travaille en tant que chrétien. Mais il y en a trois. Alors, ça veut dire, et pourquoi Dieu en opère une deuxième? La première, c'est pas fini, c'est pas... Vous comprenez? Donc, en fait, pourquoi il opère? Ben, parce que Dieu, il fait toujours bien, et parce qu'il y a besoin, je ne sais pas. Mais en tout cas, la première est déjà faite, c'est plus une sainteté de position, et la deuxième, c'est une sainteté, donc on va lire Jean 17, verset, voilà, j'ai fait allusion, oui non, ce matin on a parlé de verset 11, mais Jean 17, verset, donc 17 qui est connu par cœur, hein, Jean 17, 17, finalement, vous voyez, le verset clé du premier point, c'est Hébreux 10, 10, le verset clé du deuxième point, c'est Jean 17, 17, et le troisième, j'en ai pas. Mais non, ce n'est pas dans le troisième. Alors, 17. Donc, Jésus prie pour nous, enfin pour les disciples, puis nous. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soit sanctifié dans la vérité. Aïe, 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 aïe. Alors, ouais. Alors déjà, première chose, on va dans l'ordre, on prend que le 17. Pour commencer, sanctifie-les par la vérité. Donc là, il ne dit pas par le sang, pas une fois pour toutes, mais quelque chose qui va se prolonger. Et Jésus dit tout de suite, confesse. Alors Dieu le sait que c'est sa parole qui est la vérité. Donc quand on prie, des fois on dit des choses, ce n'est pas pour informer Dieu, hein, mais on confesse quelque chose qui est beau. Et il dit, ta parole est la vérité. Et donc, ça veut dire que des gens que Dieu a déjà sanctifiés par son sang, ces gens-là, il va continuer à les sanctifier, il va prolonger une sanctification, il va les sanctifier par sa parole, en leur parlant, en amenant la vérité en eux, il va continuer à les tenir en main, et donc à les changer. Et alors vous allez dire, objectivement, dans le verset 17, il n'y a pas clairement l'idée que c'est pour les changer. Mais quand même, que signifie l'expression « ta parole » dans toute la Bible? Pas loin derrière, il y a l'idée que ça change l'homme. Hein. D'accord? Mais surtout, ce qui nous oblige à parler de notre changement, c'est la suite. C'est le contexte, c'est comment ils vont vivre dans le monde. Hein. Je les ai envoyés dans le monde. Et là, il dit, eux, ils sont dans le monde. Ils seront, donc là, Jésus dit ça, quelques heures avant d'être arrêté et crucifié. Donc, il dit, ils seront dans le monde, par mon sang, ils seront déjà sanctifiés, mais moi, je me sanctifie pour eux, il ne le dit pas au futur, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés, et il redit dans la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je me sanctifie pour eux? Alors, vous savez que les mots de la Bible doivent avoir pour nous la signification qu'ils avaient pour l'auteur. C'est capital. Donc ici, un raccourci ne nous aide pas. Par contre, sanctifié. Donc Dieu est le Saint. Jésus est le Saint. quand il dit « je me sanctifie », c'est le verbe qui dit « je fais le saint ». Je fais ce que fait le saint. D'accord ? Me sanctifie, c'est-à-dire « je vis et je fais ce que toi, Père Saint, tu m'as envoyé faire ». Et tout en continuant ce que j'ai toujours vécu avec toi, le Père Saint. D'accord ? Pardon ? Pas facile de le faire ? Alors attends. On va faire un effort, on va peut-être... Oui. Oui, ça il le dit un peu plus haut, un peu plus loin, pardon, plus bas. Qu'est-ce qu'il a fait sur terre Jésus en tant que saint ? En tant que saint, et saint parce que son Père est saint, d'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oui ? Oui, il est. Mais étant saint, alors, il n'a pas besoin de faire pour être saint, mais étant saint, il a fait. Il a fait des choses. Alors, par exemple, les foules venaient, les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie, mais lui se retirait dans des lieux déserts et priait. Voilà. En tant que saint, il s'est tenu proche du Père, saint. Il a fait ça toute sa vie, mais aussi il a amené la miséricorde, mais aussi il a guéri des malades, mais aussi, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il va faire juste après en tant que saint ? J'ai vu, hein ? Juste après, il va se donner. Il dit, personne ne m'ôte ma vie, c'est moi qui la donne. Donc il va être crucifié. Il va se laisser crucifier, techniquement, physiquement, il se laisse crucifier, mais il donne sa vie. Donc quand Jésus dit... Je me sanctifie moi-même pour eux. Pour eux. Alors, profit. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Il dit, si vous voulez, je remplis mon rôle de fils saint. Oui, je pense qu'il faudra des micros là. Oui.
En fin de compte, Jésus, se sanctifier, c'est qu'il va donner aux autres accès à Dieu.
Absolument.
Le Père, le Fils, le Père, j'allais dire, le Fils renvoie la balle au Père, et le Saint-Esprit renvoie la balle.
Oui. C'est pour ça que Jésus est plus saint que quiconque, parce que c'est l'accès absolu à Dieu.
Voilà.
Donc, il y a un verset dont on parle peu. Oui, je l'ai mis là. 2 Corinthiens 4, verset 12, où Paul dit, ainsi donc, puisque Christ est mort pour nous, puisque, ainsi donc, la mort agit en nous et la vie en vous. Et Jésus est en train de dire dans sa prière que tout ce qu'il a été en tant que fils de Dieu, lui-même saint, va être actif dans ses disciples. Autrement dit, je vais le formuler autrement. On connaît tous l'expression « Jésus a parfaitement obéi au Père pour que nous puissions lui obéir ». Mais voilà, il s'est sanctifié pour que nous soyons sanctifiés. Jésus a aimé Dieu pour que nous puissions l'aimer. Il s'est sanctifié, il a vécu en saint pour que nous puissions vivre en saint. Jésus a prié pour que nous prions autrement, etc., etc. Donc, probablement la chose à retenir ici, c'est que tout ce que Jésus a fait sur terre, vous le savez qu'il l'a fait pour nous. Lui, il n'avait pas besoin de venir. Et même Dieu n'avait pas besoin que sur terre, Jésus lui obéisse mieux qu'il ne le faisait au ciel. Enfin, vous comprenez, je vais finir par dire des choses stupides. C'est pour nous. Si Jésus est venu obéir à Dieu sur terre, c'est pour nous. Pour que ça agisse en nous et que ça nous rende obéissants. Et c'est ça C'est les mots de la Bible, c'est la Bible qui explique la Bible. Donc je me sanctifie moi-même pour eux, il faut que je le relie à quelque chose que Jésus a fait sur terre à mon bénéfice. C'est-à-dire toute sa vie et sa croix et sa résurrection. Enfin, sa résurrection, ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est le Père qui l'a ressuscité. Vous comprenez? Sinon, je suis dans l'imaginaire, je me construis une explication de « je me sanctifie moi-même pour eux ». Alors, vous voyez? Le temps que tu trouves le micro, je rajoute. Et c'est comme ça que Dieu continue à me sanctifier par la vérité. Parce que Jésus le dit dans la foulée, hein. Sanctifié par la vérité, je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux soient sanctifiés dans la vérité. Donc, il continue. Et il y en a besoin. C'est-à-dire, bien sûr, je suis né de nouveau. Bien sûr, je suis une nouvelle créature. Mais il y a besoin que ce que Jésus a été en tant que saint devant Dieu, je le sois aussi concrètement. Alors, psychiquement et physiquement.
Moi, je crois que ce qui me faisait difficulté là au début, puis j'ai. Heureusement que tu as un peu développé le projet parce que. En fait, c'est un peu comme si on se disait la sanctification, c'est éviter, puisque c'est notre part, le péché. Évidemment, concernant Jésus, on est là. Donc, lui, il n'a pas besoin d'éviter le péché. Il était sans péché. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que pour nous, on n'est pas loin de penser que la sanctification, c'est par exemple se repentir et recevoir le pardon pour rester pur, tu vois, comme Dieu nous a mis. Un peu comme si on est pur. Et puis, voilà, pour nous, c'est ça. Mais évidemment que cette dimension est exclue pour Jésus. Mais il nous manquait toute la dimension de se sanctifier, c'est vivre dans la vérité, c'est prier, c'est exercer tout ce que tu as dit là, la compassion de Dieu, lui obéir, etc. Des choses, j'allais dire, pas anti-péché, mais d'obéissance et de conformité, de communion. Oui, oui. Je pense que ça nous fait, enfin moi, ça me fait un super barrage, quoi, dans un sens.
C'est pour ça que, en fait, finalement, c'est la prochaine chose. Chose que j'allais dire, c'est que évidemment que quand Jésus prie « garde-les en ton nom », c'est pas seulement garde-les du mal. Et sanctifier, c'est pas seulement purifier du mal ou éloigner du mal. C'est d'abord être rempli du bien. Et c'est pour ça qu'il dit « par la vérité et dans la vérité ». Oui, pardon.
Je me sanctifie pour eux, c'est je porte le fruit de l'esprit. Enfin,
oui, aussi, absolument.
Je leur ai démontré tout ce que peut être le fruit.
Absolument,
de l'esprit.
Absolument.
Je ne leur montre pas seulement qu'il ne faut pas obéir aux œuvres de la chair, mais je leur montre aussi. Comment et quels sont le fruit de l'esprit?
Oui, absolument. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'application chez nous de ce que Jésus a été. Puisque l'Esprit, il nous dit, ses paroles ne viennent pas de lui-même. Il nous amène, il nous dit, il nous amène ce qui est de Dieu et de Christ. Voilà. Exactement, merci. Autre chose sur le sens de cette partie? Ou simplement, peut-être si vous avez besoin de reformuler une partie pour dire oui, il continue à me sanctifier. Il continue à me faire vivre ce que lui saint vit.
Est-ce que c'est la même idée de statut et de processus? On est enfant de Dieu, mais on apprend à ne plus avoir une mentalité et un comportement d'esclave. Et là, on est sanctifié et c'est un processus qui fait que ça nous change vers... des pensées, des façons de faire et tout qui sont plus proches de Jésus. Et voilà. C'est pour ça que Violette disait, mais il est saint, il n'a pas besoin de produire de la sainteté. Non, mais puisqu'il est saint, il agit comme un saint.
Voilà.
D'accord.
Oui. Ça, c'est capital, ça. Et ta parole est la vérité. On le sait, hein, je pense que Jésus assimile parole orale de Dieu et écriture. C'est capital. Hein. Il ne faut pas tomber dans le piège que la parole que Jésus n'a pas dit, c'est l'écriture, la vérité. Il a dit ta parole, donc c'est juste la parole orale que, comme ça, inspirée, et l'écriture, ça serait inférieur. Pas pour Jésus, hein. Jésus, pour Jésus, Dieu dit et Moïse dit, c'est équivalent et interchangeable. Et ça se vérifie dans les versets. Ou pour la même chose, une fois Jésus prononce Dieu dit et une autre fois il prononce Moïse dit. C'est capital, ça. C'est très très important. Parole écrite, parole orale sont assimilées de Dieu. Hein. Parole orale de Dieu, parole écrite de Dieu, Jésus les assimile. Donc ta parole est la vérité, ça veut aussi dire la Bible est la vérité. Alors, correctement interprété, hein, si je lui fais dire n'importe quoi. Mais ce n'est pas le papier, hein, c'est les mots que l'Esprit a fait. Merci, merci. Voilà. Si vous voulez noter encore Éphésiens 4, verset 24, où il parle d'avoir été transformé, non, de se dépouiller du vieil homme, de l'homme qu'on était auparavant, d'être renouvelé, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence et de revêtir Christ. Et il dit, et là, c'est l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si vous voulez, à des gens déjà sanctifiés ou dans, pour et chez des gens déjà sanctifiés, la vérité va produire de la sainteté encore. Donc on est en train de parler du principal moteur du progrès chrétien, de la communion à Dieu, voilà, c'est la vérité. Et la vérité, eh bien, c'est Jésus, c'est Dieu, et elle sanctifie. C'est-à-dire, elle nous maintient dans sa main. Elle nous maintient dans sa main. Oui. Voilà, donc je pense pour la deuxième partie, ça sera tout. Les questions sont venues pendant. Est-ce qu'il y en a d'autres, ou des objections, des remarques, des choses qui peut-être posent souci? Avant que je ne passe à la troisième.
Au niveau de la sanctification que Dieu opère en nous,
oui.
Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien la facilite ou la ralentisse?
Hélas, oui. Alors, il ralentit pas le débit à l'émission d'en haut, ce que Dieu émet, là on peut ni ralentir ni augmenter. Par contre, on peut réduire ou bien recevoir le débit à l'arrivée, c'est-à-dire par la vérité. Il est évident que si je me laisse piéger dans des choses qui ne sont pas la vérité et que je commence à intégrer que justement la vérité est relative, que si, que mi, que je me nourris de choses que Jésus n'a pas dites, que quelques slogans tiennent lieu de paroles de Dieu pour moi, à ce moment-là, oui, je ralentis l'arrivée, je réduis quelque chose, oui, oui, oui. Ce qui nous amène directement à la troisième partie, c'est-à-dire à notre part.
L'importance aussi de l'environnement, à titre de confusion, de certains sentiments de solitude, de misère, de choses comme ça.
Oui, vos différentes remarques éclairent la chose. C'est super. Alors, troisièmement, donc finalement, c'est la seule sanctification que ce n'est pas Dieu qui opère. Et il nous a laissé un petit bout quand même. Donc, l'Esprit Saint nous entraîne, c'est-à-dire nous forme, nous tire à le faire, mais aussi nous donne un entraînement, nous forme à nous sanctifier nous-mêmes. Aïe, 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 aïe. Un petit préalable sur la grâce, parce qu'évidemment, le Dieu saint, c'est le Dieu de toute grâce. Hein, il n'est pas saint ici et grâce là. C'est lui. Tout, l'Éternel est un. Donc, le Dieu saint est grâce, est le Dieu de toute grâce. Donc, c'est textuellement 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce. Nous le savons. Ce que je vais dire, c'est, on le sait, c'est une évidence. Et il est possible que ce soit utile de le dire. Vivre dans la grâce de Dieu, vivre sous la grâce et non sous la loi, etc. Bien que nous dépendions de la loi et qu'elle s'applique encore pour pas mal de choses. Quand elle dit « tu aimeras Dieu de tout ton cœur », ça s'applique, hein. Et tu ne commettras pas adultère, ça s'applique aussi. Mais bon, notre rapport à Dieu n'est pas régi par la loi, mais par sa grâce et par le sacrifice de Jésus. Vivre sous la grâce, est-ce que ça veut dire « je ne cherche plus à obéir à Dieu » ? Non, pas du tout. On est bien d'accord. Ça ne veut pas du tout dire que je ne cherche plus à obéir. Je cherche à obéir. Mais ça veut dire que j'ai la paix avec Dieu. Non à la mesure de l'obéissance, de ce que j'ai réussi à obéir, mais par la foi dans le sang de Jésus. C'est ça, vivre sous la grâce. Autrement dit, si j'ai la paix avec Dieu beaucoup, quand j'ai réussi à obéir beaucoup, et presque plus la paix quand j'ai quasiment pas réussi à obéir, c'est ça le légalisme.